Bonsoir. C'est mon travail de session d'hiver, enfin d'automne 2014 qui me vaut d'être là. Je me sens un peu impressionné devant le public et les six illustres professeurs. En fait, moi, la thèse que je défendais dans mon travail de session est assez simple. C'est qu'il y a une double fracture au sein, durant l'histoire du Burkina, entre, d'une part, une autocratie civile qui est en fait constituée par le régime de Maurice Yamego, dont le professeur a parlé tout à l'heure. Et cette fracture est celle entre ce monsieur-là et la population burkinabé, dont on a parlé des événements de 1966 qui l'ont balayé, avec ses slogans « On veut du pain, de la démocratie », etc. Donc cette première fracture permet de mettre en perspective en fait le régime comparé dont je vais parler tout à l'heure, parce que c'est le régime comparé dont je vais parler tout à l'heure. Donc, d'une part, cette fracture entre l'autocratie civile de Yamego et de la population jusqu'en 60, et d'autre part, pour moi, je suis un peu plus radical dans la thèse, dans le deuxième volet de ma thèse que j'énonce par rapport au professeur Mandé, c'est que je pense qu'il y a une oligarchie militaire qui a pris les rênes du pouvoir à partir de 1966 et qui ne l'a jamais lâché jusqu'en 2014, au fond. Donc, à partir de 1966, on est un régime militaire qui est en trois phases ou en quatre phases, avec la Misana, ensuite Saïd Erbo et la pré-révolution de Jean-Baptiste Ouédraogo, puis ensuite le régime de la révolution de Sankara et de ses compagnons, puis le régime Compaoré. Donc, expliquer au fond, pour moi, 2014, ou du moins le régime Compaoré dans les mêmes termes de 27 années qui couvre son régime, 27 années et 2 semaines, pour être précis, c'est juste faire un peu de journalisme. Vaut mieux aller plus en profondeur, en termes de termes de généalogie que j'ai introduit dans le titre de mon mémoire, enfin de mon travail. C'est de dire qu'à partir de, comme disait le professeur, à partir de la décolonisation, il y a un monsieur, Yamego, qui prend le pouvoir avec des tendances autocratiques et des tendances liberticides aussi, qui, avec des frasques, des détournements, de la corruption. Donc ce régime crée une situation où il y a un conflit entre la population qui veut une forme de démocratie. On a déjà lutté contre le colonialisme. On veut installer aujourd'hui une démocratie au Burkina. Mais ce monsieur vient et s'accapare prendre la reine du pouvoir dans ses mains. Et cela va durer, cette lutte pour le balai va durer jusqu'en 1960 à 1966. Donc il est balayé par une révolte populaire qui est très importante pour expliquer, comme disait le professeur, le parallèle qu'on peut faire avec 2014. Donc suit le régime de la Misana, qui est un régime qui a, malgré les deux constitutions qui ont été adoptées durant son régime, suit un régime militaire, autocratique et liberticide aussi. Donc on arrive à ce que la Misana soit balayée en 80 au fond, et que Saïd Erbo, le colonel, prenne les rênes du pouvoir sur une même logique, celle de l'oligarchie militaire qui considère le pouvoir exécutif comme chose propre. Donc voilà, à partir de 80, il y a le coup d'État qui balaie une autre fois ce régime militaire, mais toujours dans une dynamique entre un rapport de force entre population d'un côté, de l'autre l'armée qui veut garder le pouvoir pour ses propres fins. Donc à partir de 1980, on a une installation au fond du CSP, le Conseil du salut du peuple au fond, avec le commandant médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo, qui est pour moi le préambule à la révolution au fond. Donc la révolution va prendre part, je ne vais pas trop m'attarder sur la révolution, mais c'est quand même un moment important de l'histoire burkinabé, au sens où il est important de comprendre que Blaise ne jaillit pas à partir de, sur la scène mondiale ou sur la scène nationale à partir de 1987, le 15 octobre, mais il jaillit à partir de ce moment-là, comme officier qui prend le pouvoir. Et c'est lui qui orchestre en fait le coup d'État, qui va mettre Sankara à partir de 1983, le 4 août, au pouvoir, au fond. puisque comme disait le professeur, Sankara est emprisonné pour ses activités de premier ministre communiste, c'est un marxiste qui est nommé premier ministre par Jean-Baptiste Ouédraogo. Donc il y a un conflit de personnalité durant les deux années, pendant l'année, comment dire, pendant le régime de Jean-Baptiste Ouédraogo, pardon, un conflit de personnalité entre les deux. D'une part, on a un président qui est pro-occidental, qui se veut réformiste au fond, et de l'autre côté, on a son premier ministre qu'il a nommé, qui est Sankara, qui l'a permis d'arriver au pouvoir, qui est lui quasiment révolutionnaire. Donc à partir de 1983, on a la révolution, le 4 août, qui est un moment important. Et cette révolution va prendre place au fond dans un contexte international très particulier. On le sait tous, entre la fraction entre le bloc communiste et le bloc capitaliste. Sankara, qui est dans le précaré français, se veut communiste, chose qui est considérée au fond comme une hérésie aux yeux de l'ex-métropole, qui joue un rôle fondamental quand même dans la politique extérieure, même intérieure du Burkina d'une certaine façon. Donc voilà. La révolution prend place à partir d'un discours fameux de Sankara qui est le discours d'orientation politique du 2 octobre 1983. Qui est un discours qu'il faut écouter, si, pour ceux qui sont passionnés par l'histoire du Burkina, qui est une forme de synthèse marxiste de l'histoire du Burkina depuis 1960. Le discours est jalonné de vocabulaire marxiste, c'est vrai, mais il est très précis et permet de voir d'où vient le Burkina de 60, à partir de 60, à partir de cette histoire de Morsi, Amiogo, etc., sur les deux régimes militaires qui ont suivi, et des trois régimes plutôt, puisque 83 c'est déjà la révolution. De voir comment tout ça s'articule. Donc ce discours-là met, comment dire, en perspective ce que sera la révolution burkinabé. Donc, que fut la révolution burkinabé au fond? C'est, à notre avis, une révolution plutôt idéologique. Un renversement, au fond, entre un paradigme où l'homme burkinabé, l'homme voltaïque, était un homme qui était plutôt dans une position attentiste, au sens où le voltaïque avait une position de passivité, d'une certaine façon, ou du moins c'est ce qu'on voulait dans cette catégorie-là qu'on voulait le placer, au sens où l'armée faisait tout par rapport à une répression qu'elle orchestrait pour agencer de la peur, pour intimider de la population. Donc à partir de 1983, avec la révolution, on a un changement. La fracture entre cette armée-là, qui est au pouvoir depuis 1966, et le peuple se réduit en fond. Mais elle ne se détruit pas pour moi. Il y a une oligarchie qui continue, même sous la révolution, pour arriver au fond au régime de Blaise Compaoré, à partir de 1987. Donc la révolution va mourir lorsque Sankara meurt, au fond, le 15 octobre, 1987, dans des circonstances que le professeur va parler tout à l'heure. Donc, ayant fait un petit rappel de cette histoire dialectique entre peuple et intelligentsia, oligarchie militaire, je vais peut-être maintenant parler de ce que fut le régime Compaoré en 5 phases. Donc, le 6e régime est celui de Blaise Compaoré. Le Burkina du 15 octobre 1987 au 31 octobre 2014. La première phase, c'est celle qu'on appelle la rectification au fond. À la suite du coup d'État de 1987, de l'assassinat de Sankara, il y a un régime autoritaire, très répressif, qui crée un climat de terreur à couteau tiré avec les autres acteurs de l'oligarchie militaire, puisqu'en 1983, ceux qui prennent le pouvoir sont de jeunes officiers communistes qui créent un triumvirat entre Sankara, Zongo et Compaoré. Et puis on peut citer plus loin aussi Lingani, le commandant. Donc, Sankara étant éliminé, il y a une place à prendre, celle du président de cette rectification. Donc, il fait Compaoré, il se trouve au camp président, bien sûr, et commence par éliminer les deux opposants. Éliminer, quand je dis éliminer, c'est pas les mettre en exil, c'est les exécuter, les tuer, au fond. Donc, le 19 septembre 1989, ils sont éliminés sous le motif d'un complot par Compaoré. Donc cette rectification est marquée par un régime très instable, très répressif, très agressif contre toute tentative avérée ou inventée de faire une contre-rectification, avec des pratiques de terreur, d'intimidation. Mais aussi ce régime est caractérisé par un nouveau rapprochement avec la Côte d'Ivoire de Faure Boigny, dont on sait que c'est l'un des piliers de ce que François-Xavier Verchard appelle la France-Afrique, c'est-à-dire cette implication historique de la France et de ses anciennes colonies. Donc, Blaise Compaoré, anciennement membre du ROC, du Rassemblement des officiers communistes des années 70, qu'ils ont créé avec son carré au niveau des années 70, va se convertir comme par magie au libéralisme. Donc voilà, donc on a un libéral qui prend les rênes du pouvoir avec son alliance avec Faure Boigny qui comment dire, le met sous sa coupole. Donc, la deuxième phase, c'est celle de l'avènement du jeu démocratique et politique au Burkina Faso. À partir de 1991, on a des élections. Donc, Blaise Compaoré troque son habit de civil, de militaire pour un vêtement de civil et se présente. Mais l'opposition boycotte ces élections-là sous le motif que c'est une légitimation de sa prise de pouvoir par la force qui veut légitimer au fond par les urnes. Donc il y a un boycott des élections par l'opposition, etc. Donc Compaoré ainsi élu pour un mandat de 7 ans selon les dispositifs de nouvelle constitution qui est la 4e du pays. Et il est relu en 1998 avec un parti, le CDP, qui va devenir à partir de ce moment-là un parti quasiment hégémonique au Burkina, hégémonique au sens où il va avoir une très grande importance dans la gestion des affaires de l'État. Donc ce parti est créé en février 1996. Donc c'est avec ça qu'il va aux élections de 1998 et qu'il les gagne. Au point de vue international, on peut dire que le régime Compaoré à cette époque va s'enrichir à titre privé avec des implications dans les guerres atroces du Libéria et de la Sierra Leone. On peut citer des rapports de l'ONU qui mentionnent ça, donc des trafics d'armes, de diamants, etc., qui sont imputables au régime à ce moment-là. Donc il y a une capitalisation financière que le régime obtient pour soi, qui va lui permettre d'avoir une certaine assise pour financer des projets qui lui sont propres au fond. Donc la troisième phase, qui est pour moi le tournant de cette période et du régime Compaoré, c'est l'affaire Norbert Zongo au fond, où le pouvoir vacille. Le second mandat de Compaoré s'ouvre au fond en 1998, sur des turbulences internes suite à l'assassinat de Norbert Zongo, un journaliste d'investigation très populaire et virulent critique contre le régime. Tout le pays s'indigne. On pense aujourd'hui au journaliste Charlie Hebdo qui ont été assassinés tout dernièrement, on peut penser à eux, mais on peut penser qu'en Afrique aussi il y a beaucoup de personnes, beaucoup de journalistes qui sont assassinés chaque année, et dont ce monsieur-là. L'affaire Norbert Zongo, au fond, c'est quoi? C'est un journaliste qui voulait faire son métier, au sens où il voulait mettre à nu, donner l'information de ce que le régime est aux populations, au moins nationales et internationales, en disant qu'il y a ici au Burkina, dans les années 90, 95, 98, etc., un régime qui tue, qui utilise la répression contre son propre peuple. Donc l'histoire de l'assassinat de Norbert Zongo est simple, il enquêtait sur, au fond, un meurtre, celui du chauffeur du frère de Blaise Compaoré, le président, qui a été assassiné dans des circonstances troubles, au fond. Donc ce monsieur-là prend sa plume, écrit des pamphlets pour accuser, ou du moins selon ses sources, accuser ce monsieur-là qui est le frère du président. Donc il a assassiné dans le 13 décembre 1998, juste après la réélection de Blaise en 1998, qui a eu lieu en novembre, je crois. Donc ce tournant-là s'opère. Il y a une prise de conscience du Burkinabé qu'il faut manifester, parce que ces libertés qui sont aujourd'hui, par exemple, qui vont être défendues partout dans le monde, par exemple à travers les manifestations qu'on a vues concernant Charlie Hebdo, cette liberté fondamentale d'expression et de pouvoir dire ce qu'on pense, sont bafoués au Burkina. Donc il y a une prise de conscience de la société civile, des partis d'opposition, qui commence déjà à se mettre en position pour contester le pouvoir de Compaoré. Donc cette contestation due à l'affaire Zongo ne fait pas plier le régime, mais plutôt le fait qu'il lâche du lest au fond. On va avoir un changement de constitution en 98 qui va permettre au fond de limiter les mandats à deux. Deux mandats de 5 ans. Et la mort de Zongo est une nouvelle donne sociopolitique qui s'organise dans le pays en fond. Le pouvoir est obligé de lâcher du lest en portant la modification de la constitution, comme je disais, à deux fois 5 ans. Donc, comparé au regard d'un mandat jusqu'à l'élection de 2005, au fond. Et la quatrième phase de l'analyse du régime, c'est le début des crises sociopolitiques et militaires, l'émergence d'une société civile et d'une opposition crédible, au fond. Donc, à partir de 2005, déjà, il y a les partis d'opposition qui commencent à s'organiser. Et cela va aller jusqu'en 2010, une contestation montante avec des acteurs publics qui vont commencer à contester son régime. On peut aller directement à l'année 2014, au fond, qui va être l'année décisive, l'année qui vient de passer. Donc, à partir du 18 janvier, on a une manifestation monstre à Ouaga qui dit au président, au fond, de clarifier ses positions concernant le fait qu'il ne va pas briguer un troisième mandat en 2015. Mais le silence de Compaoré pousse au fond les Burkinabés à poursuivre leur mobilisation jusqu'à octobre 2014, où on a une cristallisation des deux positions, les pro-référendum et les anti-référendum. Donc l'année 2014 est décisive en ce point-là. Qu'est-ce qui met le feu aux poudres au fond? C'est la décision de Compaoré de faire cette modification de la Constitution au fond par voie parlementaire plutôt que par voie référendaire au fond. Il décide de coopter un parti d'opposition qui s'appelle l'ADF-RDA, de JBL Ouédraogo, pour compléter les deux tiers, pour obtenir les deux tiers des sièges au Parlement pour pouvoir faire voter sa loi, puisque le CDP est certes majoritaire au Parlement, mais il n'a pas toutes les voies possibles pour pouvoir faire passer sa voix par voie parlementaire. Donc il y a la cooptation de ces députés d'opposition du centre, au fond, qui permet au fond au président de pouvoir faire cette modification. Donc il y a un conseil des ministres extraordinaire, celui du 21 octobre 2014, qui porte sur la décision du gouvernement de changer par voie législative, et non pas finalement par voie référendaire, la Constitution, notamment l'article 37 de cette Constitution, pour permettre au président de briguer un mandat et se maintenir au pouvoir. Donc c'est la décision qui met le feu aux poudres et qui entraîne des manifestations. Donc le 28 octobre, on a une marge d'un million de personnes à Ouagadougou qui dit très clairement au président, retirez votre projet de loi, on n'en veut pas, on veut une alternance démocratique sans problème, etc. Donc, le 29, il y a de la désobéissance civile qui s'opère en prévision le 28, il y a la désobéissance civile qui s'opère en prévision du vote de la loi le 29 octobre 2014. Et le 30, il y a une insurrection qui prend, comme on le sait tous, qui va à l'Assemblée nationale et qui balaye le régime Compaoré en empêchant le vote de cette loi. Donc Blaise Compaoré, au fond, est obligé de démissionner le 31 octobre 2014 en quittant le pouvoir. D'une certaine façon, c'est l'oligarchie militaire qui est le deuxième volet de ma thèse que je défends dans mon projet, dans mon travail de scission, qui est balayé. Donc aujourd'hui, on a au Burkina une situation où le peuple reprend ses droits par rapport aux idéaux qu'il avait déjà depuis 1960. Pour aujourd'hui, on espère du moins que ça va se concrétiser par des élections libres et que le rapport de domination entre militaire et civil qui a été en défaveur de la population civile puisse aujourd'hui être balayé et que la démocratie s'installe véritablement au Burkina. Quoi. Donc voilà à peu près ce que je pourrais dire sur le régime de Compaoré. Merci.
Merci beaucoup, Kader. Désolé d'avoir passé des petits papiers qui sont très, très intimidants quand ça arrive devant nous.